Et voilà, donc Hendrik nous accueille pour la deuxième fois dans cette émission d'Onde de Noir.
Pas la dernière.
Voilà. Et donc c'est Corinne qui va vous parler de deux romans.
Deux romans parus septembre, début octobre. Donc on va dire deux romans de la rentrée, c'est vachement original. Et si je vais en parler en même temps, c'est qu'ils nous font plonger l'un et l'autre dans le passé, un passé plus ou moins récent, des militants. Des militants qui, depuis lors d'ailleurs, ont oublié leurs idéaux, voire ont carrément renié tout ce passé. Alors, le titre de ces deux romans, le premier s'appelle « Face à face », c'est de Gunnar Stålsson, c'est chez Gaïa Éditions, et le deuxième, plus facile, « Les guetteurs », Yin Rankin, aux éditions du Masque. Dans ces deux romans, on va y retrouver aussi les personnages récurrents de ces deux écrivains. Donc, respectivement, pour Gunnar Stålsson, le détective Varghveum, je rappelle que c'est un Norvégien et qu'il...
Et je rappelle qu'on dit Varghveum.
Si tu veux. Je ne vais pas te contrarier sur Varghveum. Il est à Bergen, alors il ne va pas m'embêter. Et puis, il y a le flic Malcolm Fox, qui est le nouveau personnage récurrent de Yann Rankin, qu'on connaît depuis le dernier roman, qui s'appelait Plainte. Et lui, je rappelle que c'est un Écossais. T'as rien à dire sur Malcolm Fox, ça
non,
va,
bon.
J'ai bien prononcé, tout va bien. Alors là où tu vas peut-être tout redire, c'est que ça va se compliquer. Puisqu'on est en Écosse, on n'est pas loin d'Édimbourg, et l'enquête de Malcolm Fox va se passer dans le comté de Fife. Alors c'est le Fife of Forth.
Exactement.
Ça, c'est une des choses les plus redoutables quand on est à l'école, quand on nous parle de ça. C'est imprononçable. Mais maintenant, on sait comment faire. Deux pintes de Guinness, ça va beaucoup mieux. Et donc, dans cette région, ce sont les nationalistes des années 80 qui vont être mêlés à une enquête de la police des polices, qu'on appelle la police des plaintes en Écosse. Le personnage qui va être inquiété, qui doit être inquiété d'ailleurs, parce que d'un côté, c'est un fief et salaud, il va être soupçonné d'abus de pouvoir. Il est dans le comté de Fife et Malcolm Fox va essayer de voir si effectivement c'est vrai, calomnie. Évidemment, Yann Rankin, c'est son habitude. Il va emmêler les fils de l'enquête, la démultiplier. Il va rebondir de personnage en personnage. Va falloir d'ailleurs pour lui frapper très fort, car ces fameux nationalistes, qui sont donc au milieu de toutes ces histoires, qui reviennent incessamment devant l'enquête, dans l'enquête, ben, maintenant ils sont au pouvoir. Et évidemment, c'est pas si facile que ça pour un enquêteur, fût-il de la police des polices, d'intimider des gens qui sont au pouvoir. Mais évidemment, il a plus d'un tour dans son sac, bien qu'il soit féru de jazz, c'est pas un musicien. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si le malicieux Rankin lui a donné le nom du renard Fox, ça veut dire renard en anglais. Il est tenace, il est vindicatif et évidemment il va pas se laisser intimider. On suit aussi son histoire personnelle, ça c'est vrai de beaucoup de personnages récurrents. Ennui de famille dans cet épisode-là, le père qui est à l'hôpital, la sœur à charge, ça va alourdir singulièrement ses journées et évidemment... C'est son moral, mais c'est en écho avec l'histoire où il y a beaucoup d'histoires de filiation et de détours dans les familles. Donc c'est l'histoire personnelle de Malcolm Fox et l'histoire policière, ça c'est un petit peu en face à face. Bien dit, puisque titre du roman de Gunnar Stålsson, Face à face. Ici Varghveum, le privé de Bergen, alors là, toujours aussi mélancolique, toujours aussi peu porté à l'optimisme béat. Mais là, il n'y a aucune catastrophe personnelle qui va entraver ses investigations. Et même, il va sortir de sa ville favorite, il va sortir de Bergen et il va nous emmener faire des petits tours dans les fjords. Quelques mots du début de l'histoire. Il rentre dans son bureau et il va retrouver un homme mort dans sa salle d'attente. Le décès semble naturel, mais la veuve lui demande quand même de fouiller un peu. Pourquoi ? Parce que le mort, Erlund, des années plus tôt, avait milité dans un mouvement d'extrême gauche et avait vécu en communauté. Et ce qui semble bizarre à la veuve, c'est que quelques années plus tôt, une de ses, entre guillemets, co-religionnaires avait déjà disparu, soi-disant suicidée, soi-disant noyée, dans des circonstances plutôt bizarres. C'était un suicide plus que suspect et c'était passé comme une lettre à la poste. Donc, Varghum, c'est assez souvent, il va enquêter à la fois dans le présent, mais à la fois dans le passé. Et pour enquêter, il va donc rentrer en contact avec tous ceux qui ont vécu ensemble des années plus tôt et partager peu ou prou les mêmes idéaux des deux disparus. On va être très très loin du paradis, de ces images de communauté flower power et puis peace and love. En fait, la communauté, elle va révéler bien des surprises, des secrets et des rancœurs bien gardées. Il y a beaucoup aussi d'histoires amoureuses, disons plutôt amoureuses, plutôt de sexe entre les différentes entre les différents communautaires. En fait, l'amour libre, ça l'était pas tant que ça. Et en gros, dans ces deux romans, les deux écrivains explorent les rêves, les utopies, les illusions de jeunesse. Mais ce qui est très bien, c'est que très loin de verser une larme et de faire vibrer la corde de la nostalgie, ils dévoilent en fait, peu à peu, les ambitions de chacun, qui est en fait bien peu en accord avec leurs idéaux premiers. Et ça, c'était vrai il y a quelques années, et je crois que c'est toujours vrai encore maintenant. Et puis, en un éternel recommencement, les luttes de pouvoir, les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques, et puis les pouvoirs aussi sur l'autre, sous couvert d'amitié, sous couvert d'amour. Et ça, c'est peut-être les pouvoirs les plus dangereux, voire, pour des romans noirs, mortels. Donc, je rappelle les titres de ces deux romans. Donc le premier de Gunnar Stolzen s'appelle Face à Face. Je rappelle qu'il est publié aux éditions Gaïa.
Et je suppose qu'il est traduit par Alexis Fouillet.
Bravo, c'est exactement ce que j'allais préciser. Et alors, puisque tu es si fort, est-ce que tu pourrais deviner ou connaître le traducteur de Yann Rankine avec...
Oh, je fais plus que le deviner parce que
En fait, tu lis par-dessus. Voilà. Soyons francs, tu le lis par-dessus mon épaule et c'est donc...
Freddy Michalski.
Freddy Michalski. Donc ce deuxième roman qui s'appelle Les Guetteurs. Vous comprendrez le titre en lisant puisque les guetteurs, ce sont d'anciennes personnes qui allaient espionner justement les mouvements nationalistes. Voilà, un petit peu de musique.
Un petit peu
de
musique.
Et là encore... Tu as très bien choisi.
Habile transition. Habile transition, puisque le morceau que nous allons écouter s'appelle Varghveum, ou Varghveum comme tu dis. Il est composé par un contrebassiste norvégien qui s'appelle Finn Guttormsen.
Ah, je suis sûr que tu l'as mal dit.
Non, je suis sûr.
Si, c'est Finn.
Finn Guttormsen. Le morceau s'appelle donc Varghveum, ou Varghveum. Et nous allons l'écouter, c'est du jazz.
Thank you. Et voilà, c'était donc un morceau intitulé « Varg Veum ». Frédéric Prieux, bonsoir.
Bonsoir Corinne, bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver pour vos chroniques BD. Qu'avez-vous dans votre besace ce soir ?
Eh bien, à part un léger rhume que je vais essayer de dissimuler le mieux que je peux. Voilà. Donc j'ai pour vous ce soir un album qui s'appelle « Fenêtre sur rue » de Pascal Rabaté. Alors, Pascal Rabaté, cinéaste connu depuis quelque temps, est évidemment avant tout dessinateur de bandes dessinées, et pour son retour au pinceau, parce qu'il n'avait plus dessiné depuis Hibicus, il a choisi de dérouter un peu son lecteur avec un album qui commence par intriguer par son aspect même. Alors pourquoi je vous dis ça, chers amis? C'est parce que Fenêtre sur rue est un livre qu'on peut qualifier de livre accordéon. C'est-à-dire que, alors c'est un livre musical, hein, entendons-nous bien, c'est un livre dont les pages ne se tournent pas vraiment, mais se déplient. Et ce qu'on voit sur les pages en question, ce sont des façades d'un immeuble sur une double page. Et cet album accordéon se lit recto verso. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé au bout des pages matinées, parce qu'il y a matinée et soirée, on retourne l'album et on est invité à rentrer dans l'immeuble, en fait, par le côté soirée. Donc, peut-être pas très, très...
Donc, en fait, il faut un mode d'emploi pour arriver à lire cette BD, quoi.
Voilà, un mode d'emploi. En fait, ça vient assez naturellement. Mais c'est une première originalité formelle. On vient s'ajouter une seconde, qui est que l'album ne comporte pas de texte. C'est-à-dire que c'est un album muet, alors que des images. Est-ce une BD? Je vous le dirai à la fin de la petite chronique. À la fin, je vous dirai si c'est effectivement une bande dessinée.
Oui.
Mais en fait, on devrait... C'est une invitation donc à rentrer dans chaque période de jour, nuit de l'album. Alors, écoutez juste le petit texte qui est en exergue à cet album. Alors, si une fenêtre est une ouverture qui permet d'assurer l'aération de la lumière et la lumière, elle permet aussi d'assurer la vue sur d'autres fenêtres derrière lesquelles se déroulent des histoires de couple, des histoires d'amour, de séparation, de tromperie et pourquoi pas des histoires de meurtre. C'est un travail à plein temps de regarder à la fenêtre, de surveiller, de guetter. D'ailleurs, retournons-y, il ne faudrait pas rater quelque chose. Voilà, passer ces quelques lignes, c'est rideau pour les mots.
Il n'y a plus rien. C'est
exactement. Et place aux fenêtres, c'est-à-dire qu'on est face à ces façades et pré-assister à ce qui est annoncé carrément sur la couverture de manière un peu mystérieuse. C'est une pièce sans parole en 10 tableaux et un décor. Voilà, tout est dit. Alors le décor en question, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un immeuble, mais c'est en fait plutôt un quartier dans lequel on voit figure un avomatique, un bar, le penalty, et 8 appartements. En tout, ça fait 13 fenêtres, 2 vitrines, une porte d'entrée et autant d'ouvertures derrière lesquelles, ou devant lesquelles d'ailleurs, vont se dénouer des petites histoires du quotidien, du quartier, des instants de vie d'une vingtaine de personnages et de 2 chiens aussi. Donc, alors, la première lecture, on fait comme d'habitude. On embrasse d'un coup toute la scène et puis on s'arrête sur un détail qui amuse, qui intrigue, et on passe à la suivante, c'est-à-dire à la double page suivante. On y retrouve les mêmes personnages qui ont bougé, disparu, réapparu, car le temps a passé d'une double page à l'autre, la journée a avancé, les gens ne sont pas restés figés dans leur appartement, ou alors, bon, en cas d'impérieuse nécessité narrative. Alors, on lit comme ça tout l'album, on retourne, on passe à l'autre partie, comme je vous disais.
Enfin, on regarde, puisqu'il n'y a pas de mots, donc on va regarder.
On regarde, voilà, je vois que vous avez bien compris. Et que
voilà, non, mais c'est pour montrer à quel point je suis.
Voilà. Donc on regarde et on lit les images, cher ami, chers auditeurs et auditrices, et on arrive à la nuit et là on voit parfois mieux ce qui se passe parce que les lumières sont allumées, et d'autres fois non parce que elles sont tamisées et qu'on voit seulement des ombres. Alors à chaque fois on retrouve les mêmes personnages plus ou moins là, présents ou pas présents. Alors, on ne retrouve pas quand ils sont pas là évidemment. Et quand on a passé toute la journée à les observer matin soir, on n'a qu'une envie, c'est de les retrouver, même si on se sent un petit peu atteint de voyeurisme léger sur le coup.
Oui, c'est un petit peu voyeuriste, effectivement. Hein,
voilà, c'est-à-dire, voilà. Alors, évidemment, c'est plan fixe, quoi. Alors, et c'est là qu'intervient, moi, je trouve, toute la force de Fenêtre sur rue, c'est la multiplicité des pistes de lecture, parce que, je dis bien de lecture, ou d'entrée, on va dire, dans l'album, parce qu'une fois qu'on a fait une première lecture comme ça, on se dit, on va revenir, par exemple, en prenant fenêtre par fenêtre, l'histoire de chacun des personnages. Ouais. Et là, ça marche très, 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 très bien. Alors, voilà, il y a un côté oulipien évident à cet album, alors oubapien si on veut parler de l'oubapo qui est l'équivalent de l'oulipo en bande dessinée, mais là parce que ça fait penser à une version graphique de la vue mode d'emploi de Pérec, c'est un peu évident, mais de manière encore plus transparente, ça fait, il y a un hommage direct au cinéma d'Hitchcock, d'ailleurs, rien que le
oui,
titre
bah, oui,
de Tati.
Sur, oui.
Voilà. Les deux cinéastes, d'ailleurs, déambulent eux-mêmes au fil des pages, donc leurs silhouettes sont évidemment reconnaissables entre 1000, entre 20, entre en l'occurrence. Et puis les films, d'ailleurs, les plus emblématiques font l'objet de l'adoration d'une des habitantes qu'on retrouve vissée à chaque page devant sa télé, devant Jour de fête, Psychose, Les Oiseaux. Donc ça, c'est un exemple des fenêtres que l'on peut voir. Et cette façon de faire qu'a rabattée, l'a amusé le lecteur en forçant à retrouver des références à d'autres œuvres, rappelle aussi celle qu'utilise un japonais dans ses albums pour enfants. Vous voyez, les références sont loin, la Mitsumoto Anno, dans lequel ce sont des albums muets, il faut retrouver des références à des contes ou à des œuvres artistiques tout en suivant les personnages de page en page. Bon, vous aurez compris que Fenêtre sur rue, c'est un album très 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 riche qui fait partie en fait des livres inclassables parce qu'il a croisé des genres et des styles et même des formes et qu'il est éminemment ludique. Alors la question que vous vous posez tous et que je vous ai
est-ce
même posée,
est-ce que c'est une bande dessinée?
Une bande dessinée? Est-ce vraiment une bande dessinée polar et c'est vraiment une bande dessinée tout court? Alors une bande dessinée oui parce que pas au sens commun du terme où on se dit case, planche, récit pour c'est le triptyque habituel. Là l'équivalent c'est fenêtre, quartier et petites histoires. Et
non, chaque on passe de la bulle à la fenêtre alors.
Ouais, voilà, exactement. Parce que effectivement tout passe par l'image dans ce livre. L'aspect polar, il est aussi ténu. Il y a effectivement un meurtre, je vous dis pas, et puis il y a enquête, il y a arrestation, mais c'est pas le l'aspect principal. Il n'y a pas de focus là-dessus. Mais voilà. Donc un petit mot quand même sur l'aspect graphique. On a l'impression très nette de voir des tableaux, parce que Rabatté a réalisé cet album entièrement à l'acrylique. On voit bien les coups de pinceau, ils sont très 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 visibles. Et même dans une édition comme celle-ci, qui est industrielle et pas artisanale, hein, on n'a pas un tirage de tête ni une version sérigraphiée. Très très beau, ça rend très bien. Et là, tout, en l'absence de mots, justement, il y a tout un travail sur les ombres, le temps qui passe, le temps qu'il fait, parce que il fait nuit, il pleut, il fait gris, des nuages passent, voilà. Et Rabatté rend ça très 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 bien. Donc vraiment, c'est faut vraiment le féliciter qu'il ait bien voulu reprendre les pinceaux, parce qu'il est aussi scénariste. Hein, je vous avais évoqué, je crois, Crête Saucisse il y a quelque temps, où il était scénario, voilà. Donc c'est vraiment une réussite, surtout aussi d'avoir réussi à retranscrire les états d'âme de personnages sans passer une seule fois à nouveau par le texte.
Oui, c'est impressionnant. Donc, à lire ces images, quoi, justement.
À la fin de la partie soirée, les 23 personnages sont alignés sous la lumière, prêts à saluer le lecteur, comme au théâtre. Et nous, il ne reste plus qu'à applaudir l'auteur, hein, comme au théâtre. On va lui décerner quoi, un Molière ou un Buster Keaton de la bande dessinée, en attendant qu'il y ait un fauve un jour, peut-être. Donc voilà.
Vous pourriez repréciser l'éditeur?
Oui. Alors, c'est ce que je vais vous dire, c'est Fenêtre sur rue, texte et surtout dessin donc de Pascal Rabatté, c'est chez Soleil, qui l'a dans une collection qui s'appelle Noctambule. Très très bel album, hors genre, tout genre, un petit peu hors norme, même beaucoup hors norme, et puis très belle réussite. Et puis, si j'ai juste 30 secondes encore...
C'est 22 secondes.
Eh bien, comme on est chez Soleil, juste là, c'est un conseil de lecture, une bande dessinée à part entière, c'est un chapeau melon, en fait, en noir et blanc, chez Soleil exact, aussi, d'Alain Murante, une adaptation de chapeau melon en bande dessinée, très très étonnamment réussi, j'allais dire.
On en reparlera de toute façon, oui, puis on va le mettre de toute façon sur le site. Frédéric Prieux, merci beaucoup et à très
merci
vite
à
pour une prochaine chronique.
Voilà, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir tout le monde, chacun dans son coin avec un bouquin.